Pourquoi parlez-vous au conditionnel? C'est parce que vous avez peu d'espoir?
Disons que j'ai encore l'espoir et je ferai tout absolument pour que ça réussisse. Mais il ne faut tout de même pas se cacher que l'aérotrain a prouvé la valeur de son principe il y a maintenant 5 ans. Je rappelle que le premier fonctionnement était en décembre 1965, mais que au mois d'octobre 1966, nous avions déjà transporté dans l'aérotrain de 4 places, qui est à Gomez, au moins, au moins 500 personnes, à 200 à l'heure. Du premier coup, on avait fait toutes les performances.
Sans aucun ennui.
Absolument. Donc, voilà un système qui a prouvé sa valeur depuis plus de 5 ans. Et on peut dire que le maximum d'intérêt mondial est situé à 2 ou 3 ans en arrière. Et que, comme nous le disions tout à l'heure, tous les pays développés ont maintenant lancé des programmes de développement. Donc, le conditionnement des utilisateurs prendre notre système devient un petit peu plus difficile, puisqu'ils se disent, après tout, est-ce qu'on n'a pas intérêt à attendre 5 ou 6 ans de plus et prendre soit une technologie nationale, soit quelque chose qui sera mieux? Donc, nous tirerons le meilleur parti possible. Mais il faut bien se représenter que ça n'est pas tout à fait aussi bon que si on avait fait en temps voulu l'effort.
Vous pensez que si l'inventeur de l'aérotrain avait été américain, l'Amérique aurait déjà commercialisé cette affaire?
Écoutez, je ne veux pas être trop catégorique parce que, vous savez, j'ai entendu des cas, même un pays qui est très favorable comme les États-Unis, vous trouverez des cas comme le cas de l'aérotrain. D'ailleurs, je pense que même le problème de l'aérotrain doit être pris sous un angle un petit peu spécial parce que finalement c'est le transport public. Et là, vous touchez à une question absolument fondamentale.
Il ne faut pas toucher.
Qui est effectivement que c'est un domaine ultra difficile. Donc, je crois qu'il n'est pas impossible que l'aérotrain né aux États-Unis ait aussi eu des malheurs aux États-Unis. Parce que le climat du marché en question est difficile. Disons que la probabilité est quand même que les Américains, lorsqu'ils trouvent qu'il y a matière à faire une affaire entre guillemets, dans un domaine, en général, essaient de le faire vite.
Est-ce en France que l'on trouve le plus de chercheurs, le plus d'inventeurs?
Je ne crois pas, mais disons que la France, quand on regarde un petit peu les dossiers qu'on peut avoir, que ce soit par exemple les brevets d'invention déjà pris, etc., il n'y a aucun doute qu'il y a une activité créatrice en France très grande, c'est sûr. Mais la France, à mon avis, a une autre qualité qu'on n'a peut-être pas assez mis en lumière dans bien d'autres cas que les nôtres. C'est la possibilité du développement à un moindre coût. Et là, si vous voulez, je prendrai un exemple qui pourra peut-être offusquer certains. Mais j'en prendrai deux de façon que tout le monde soit y trouve, disons, ce qu'il voudra bien y trouver. Et vous avez le problème de l'usine de séparation isotopique. C'est un problème, vous savez, qui politiquement a été très discuté. Eh bien, il n'y a aucun doute que pour ceux qui sont au courant, qui connaissent le problème, le développement en France de cette usine et la réussite exceptionnelle, je parle sur le plan technologique pur. Moi, qu'on ait une usine de séparation isotopique, on n'en est pas, ça résulte d'une décision politique. Bon, c'est pas de ça dont je veux parler. Je parle simplement du fait qu'une décision politique ayant été prise, il s'agissait de faire l'usine de séparation isotopique. Eh bien, je vous assure que les conditions dans lesquelles le développement nécessaire a été fait et la réussite technique et technologique de l'affaire a été obtenue sont absolument extravagantes. On surprit tous les spécialistes étrangers sans exception. Parce que le coût du développement était beaucoup moins cher qu'ailleurs. Et puis vous avez un autre domaine. Regardez ce qui a été fait en matière spatiale. Là encore, qu'on ait une politique spatiale riche ou pauvre, enfin, encore une fois, c'est une décision politique. Mais ce qui a été fait avec le lancement des satellites est absolument prodigieux, c'est sans exemple. Enfin, la France a mis en orbite tous les satellites qu'elle a lancés avec le programme Diamant. Eh bien, ceux qui ont fait le programme Diamant l'ont fait pour un coût qui est sans comparaison avec ce qui a été fait aux États-Unis à l'époque homologue. Ne parlons pas maintenant de Saturne et de la Lune, mais parlons de l'époque où ils lançaient leur premier satellite. Eh bien, l'économie américaine était bien plus puissante que l'économie française. Vous savez comme moi que le premier satellite a été lancé à la 9e, je ne sais même plus si c'est 9e ou 10e tentative. Le Vanguard a eu 8 ou 9 échecs avant de réussir.
Ça ne vaut aucune raison d'avoir honte.
Mais aucune. Je trouve au contraire que la France a un rôle à jouer précisément dans le développement des techniques nouvelles. Par suite des contraintes variées, l'ensemble des ingénieurs français, et ça touche à peu près toutes les branches, fait du développement moins cher que dans beaucoup d'autres pays et d'une manière plus réussie. Mais simplement, ce qu'il faut, encore une fois, c'est faire des choix, parce qu'on ne peut pas tout faire. Alors là, c'est une question essentielle. On ne peut pas être les premiers dans toutes les disciplines.
Je vois, Jean-Bertin, vous regrettez que l'aérotrain ne soit pas encore commercialisé, mais vous avez une belle somme d'enthousiasme.
Eh bien, oui, parce que, si vous voulez, nous sommes d'abord, nous, convaincus qu'en recherche-développement, si vous voulez, c'est tout de même une loterie. Et qu'il est impossible, ce serait même indécent, que tous les sujets traités réussissent. Ce serait la négation de la recherche-développement. Car si tout réussissait, il a été dit, quelqu'un l'a dit, qu'à ce moment-là, c'est que ça aurait déjà été fait ailleurs. Pourquoi voulez-vous être les premiers dans un domaine s'il n'y a aucun risque? Les autres l'auraient fait. Donc il faut savoir qu'automatiquement, on ne peut réussir qu'une affaire sur 4 ou 5. Alors le problème est de rester dans une bonne moyenne et que la réussite, si vous voulez, paye pour l'ensemble des tentatives.
Jean-Bertin, vous n'êtes pas tellement conformiste et je m'étonne que vous ne mettiez pas vous sur votre carte de visite inventeur.
Ben non.
Nous allons prendre une première pause musicale. Vous avez choisi Vivaldi, Les Quatre Saisons, Le Printemps, concerto numéro 1 en mi majeur par l'ensemble instrumental Imougitsé. Pour ceux qui prendront l'émission maintenant, je rappelle que mon invité aujourd'hui est Jean-Bertin qui a inventé l'aérotrain et bien d'autres choses encore. Je voudrais savoir, Jean-Bertin, comment devient-on inventeur?
Oh bien, si vous voulez, dans mon cas, avec les réserves d'usage, puisque encore une fois on emploie ce mot, après tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il s'agissait essentiellement du problème du progrès. Et je dois dire que j'ai été conditionné déjà au départ par l'environnement que j'ai eu, puisque nous étions un groupe d'ingénieurs, si vous voulez, avant même de terminer mes études, qui étions passionnés par les problèmes d'automobile, d'aviation, etc. Mais je dois dire que l'épisode de la guerre de 40 m'a convaincu, si vous voulez, au-delà de tout ce qui était encore possible, que l'économie était une forme de guerre. Et qu'il fallait donc développer le maximum d'attention à ne pas se battre avec l'ennemi, disons avec les armes conventionnelles, ce qui conduit à la guerre des tranchées. Car en combat, disons, avec les armes traditionnelles, c'est la puissance absolue qui paie, il n'y a pas de doute. Car si on prend par exemple l'exemple d'automobile que j'ai cité souvent, il n'y a aucun doute que les meilleures peintures, les meilleures finitions, etc., sont faites par les très grandes entreprises.
Vous êtes presque pour la bombe atomique.
Ça dépend du problème. Si on parle de guerre, oui. Je ne sais pas, moi, c'est un problème. S'il y a une guerre, il n'y a aucun doute que le moyen d'en terminer, plus vite, c'est le premier qui l'a. D'ailleurs, c'est bien ce qui s'est passé en 45.
Et puis on s'arrête.
Et oui, mais dans l'industrie, pour rester dans le domaine industriel qui est tout de même moins dangereux, eh bien, il faut, spécialement pour un pays comme la France, qui n'était pas un pays parmi les plus puissants de l'après-guerre, il fallait certainement développer un minimum d'efforts pour compenser par des positions d'innovation, car au fond, plutôt que l'invention, disons, des innovations, une infériorité sur le plan conventionnel. Car finalement, si vous trouvez le moyen de faire moins cher par quelque chose qui rend le même service, non seulement vous gagnez sur le prix, mais surtout, vous acquérez une position que vous n'aviez pas avant. Et vous renouvelez le marché.
Très jeune, vous avez sans doute inventé quelque chose. C'était quoi? À 12 ans, par exemple.
Oh non, si vous voulez, vous savez qu'à ce moment-là, on s'amusait, bien sûr, on faisait des avions, on faisait de la radio. Enfin, si vous voulez, moi, j'ai fait mon premier poste de radio, je devais avoir 11 ans. C'était très amusant, c'était prodigieux, d'ailleurs. C'est un domaine, maintenant, évidemment, qui l'est moins, parce qu'à l'époque, on pouvait presque, à part la lampe, on pouvait presque tout faire soi-même. Bah. Mais, encore une fois, j'étais intéressé à tout ce qui était nouveau. Parce que c'était une époque passionnante, pas l'époque de...
Vous lisiez Jules Verne à ce moment-là?
Ah oui, oui, bien sûr. Mais cette idée de travailler dans la recherche-développement, vraiment, m'est venue d'une façon impérative à la suite de la guerre.
Vous êtes, ou plutôt vous étiez à Polytechnique en 1938, les choses ont beaucoup changé. Est-ce que vous reconnaissez l'école ?
Mais, c'est-à-dire, là je ne peux pas répondre, parce que, si vous voulez, il y a longtemps que je n'y suis pas allé.
Vous la suivez tout de même, et
oui,
vous savez de quoi je veux parler.
Disons que tout ce que je peux en dire, c'est que quand j'y étais, j'y ai passé, je dois dire, des années tout à fait extraordinaires. Enfin, qu'on dise ce qu'on voudra, le niveau d'enseignement, le climat dans lequel il était dispensé, était quelque chose qu'on ne peut pas oublier quand on y est passé. Mais je veux dire que j'ai eu la même impression, j'ai fait super-héros après, eh bien, nous avons eu à super-héros une qualité d'enseignement, des professeurs vraiment extraordinaires. Donc, moi je crois que, encore une fois, on a trop tendance à décrier, si vous voulez, ce qui existe, n'est pas parfait peut-être, mais encore une fois, comparé à l'étranger, est tout de même honnête. La plupart du temps est honnête.
Vous étiez un fort en maths, enfin une grosse tête ?
Non, du tout. Non, moi j'étais physicien, mais j'étais pas... essentiellement, si vous voulez, mon domaine, c'est la physique, ce ne sont pas les maths.
Je crois reconnaître dans votre accent un pays que je connais.
Oui, ben,
et que c'est... vous ne refusez pas.
Oh, absolument pas, si vous voulez, Bourgogne et Morvan. D'ailleurs, c'est difficile de dissocier les deux, mais enfin, c'est vraiment mon pays. D'ailleurs, j'ai proposé, puisque certes, à l'époque où certains séparatismes étaient à la mode, j'ai proposé, par exemple, que la Bourgogne soit indépendante. Pourquoi pas, hein? Elle est très bien placée,
vous
voyez.
Vous avez de glorieux ancêtres, de toute manière, dans cette aventure.
Oui, puis elle est bien placée économiquement. Bah, elle coupe les lignes de chemin de fer.
La Bourgogne sera française.
Exactement, pourquoi pas.
Quel étudiant seriez-vous si vous aviez 20 ans aujourd'hui?
Ah, écoutez, là, je crois que je prendrais l'architecture.